On est de nature à être émerveillé. C'est pas rien. Ce qui nous différencie de la courgette.
On a vraiment relégué notre place à une place quelconque dans l'univers. On a vraiment perdu notre caractère peut-être sacré qu'on accordait à la Terre.
Parce que souvent en recherche, c'est ça, on ne sait pas ce qu'on va trouver en fait. On a peut-être une idée au départ, on a un objectif au début en se disant tiens voilà, ça serait intéressant de creuser tel ou tel aspect, mais parfois on trouve complètement autre chose.
C'est une fuite en avant. Hein. Et donc on n'a pas quelques siècles devant nous.
La Terre est le berceau de l'humanité et personne ne reste dans son berceau toute sa vie. La citation est de Konstantin Tsiolkovsky, un scientifique russe considéré comme un des pères de la cosmonautique moderne. Elle date de 1911 et elle sonne comme un augure quand on sait que 50 ans plus tard commençait la conquête de l'espace. Quand on sait qu'aujourd'hui, la limitation de nos ressources et la croissance de la population nourrissent des ambitions d'ailleurs. Quand on entend de plus en plus de gens, profanes ou spécialistes, assurer que l'espace constitue le gage de survie de l'humanité. Dans le podcast Hector, on part à la rencontre des scientifiques de l'UNAMUR pour questionner la science, ses pratiques et ses évolutions. Avec eux, dans cette série en 3 épisodes, on va se propulser dans le cosmos et prendre de la hauteur sur la question de la conquête et de l'exploitation spatiale. Aujourd'hui, on va parler de la Lune, de Mars, de Jupiter, d'exoplanètes, de voyages interstellaires, de vie extraterrestre. On va se demander pourquoi aller dans l'espace et quelles en sont les retombées positives sur la Terre. On va voir ce que nos chercheuses et nos chercheurs mettent en œuvre pour que cette colonisation soit possible, pérenne, durable. On va interroger les limites de la science et pointer ce qui relève encore de la science-fiction. On va orienter la lunette vers une planète B et questionner l'intention dangereuse de refaire ailleurs tout le mal que nous avons fait ici.
Hector, le podcast qui questionne la science, les pratiques et les positionnements scientifiques. Réalisé par Céline Raz et le service audiovisuel de l'UNAMUR pour l'Institut Moretus Plantin. Épisode 2, les nouveaux mondes.
L'espace, on pourrait croire qu'il est infini. Mais quand on arrive au bout, un gorille commence à nous balancer des tonneaux.
Avril 1961, Youri Gagarine entre dans l'histoire. Il est le premier cosmonaute soviétique, le premier être humain à voler dans l'espace et le premier homme à effectuer une orbite autour de la Terre. Ce fils de charpentier, victime de la faim, des bombardements et des camps nazis, figure parfaite de l'idéal d'égalité soviétique, devient un héros national. Il a 27 ans, la police, en sourire franc et dessiné, des cheveux châtains bien peignés sur le côté. Il a, en humour qui désarçonne, des nerfs d'acier, une mémoire fantastique, une maîtrise complète de la mécanique céleste et des formules mathématiques. Il mesure 1m58, c'est petit, oui, mais c'est parfait compte tenu de l'espace restreint disponible dans la capsule spatiale. Ce matin-là, il ne s'est pas rasé, question de superstition soviétique. La fusée est lancée depuis le Kazakhstan à 9h07, heure de Moscou. Depuis Youri Gagarine, près de 600 hommes, dont peu de femmes, ont voyagé dans l'espace. Des expéditions aux dessins différents mais aux retombées semblables, chacune a nécessité la mise au point d'une technologie qui challenge la science et engendre des bénéfices directs et concrets pour nous qui sommes restés sur Terre. Anne-Sophie Libert, professeure en mathématiques appliquées et chercheuse en mécanique céleste à l'UNAMUR.
Le domaine de l'industrie n'a jamais fait autant de progrès qu'au moment où on a envoyé les premiers astronomes sur la Lune. C'est à ce moment-là où on a découvert énormément de matériaux, puisqu'il fallait avoir des matériaux qui résistaient à l'espace. Donc il fallait absolument que ce soit des matériaux qui avaient une particularité qu'on ne croisait pas sur Terre, mais qui en fait maintenant sont utilisés dans plein d'autres secteurs, parce qu'ils ont été mis au point pour cet objectif, mais ils ont été réutilisés.
En fait, c'est tout notre quotidien qui est dépendant du spatial. Beaucoup de techniques développées dans le cadre de la recherche en astronomie ont envahi nos habitudes de vie.
Ne serait-ce que les langes pour bébés. Ouais.
Anne-Catherine Osquin, radiobiologiste à l'UNAMUR.
Il y a eu une vraie libération dans la seconde moitié du XXe siècle, c'est l'invention du linge jetable. Parce que les astronautes, quand ils partent, ils ont quand même besoin d'aller aux toilettes. Mais c'est pas nécessairement faisable quand on est assis dans un siège et harnaché de tous les côtés. Donc, ils avaient des couches.
C'est un moteur technologique.
André Fusfa, professeur au département de mathématiques de l'UNAMUR, spécialiste de relativité générale et de cosmologie.
Il y a énormément de technologies qu'on utilise dans la vie de tous les jours, depuis la médecine jusqu'au velcro des chaussures qui ont été développées dans le cadre de la conquête spatiale. Un exemple simple, c'est le Wi-Fi. Le Wi-Fi fonctionne dans les bâtiments à partir des algorithmes qui ont été développés en radioastronomie dans les années 70. Pour ce qui est par exemple de l'environnement et de la question du réchauffement climatique, etc., je trouve qu'un des points les plus principaux qu'on doit citer, c'est la question de la couche d'ozone. Dans les années 80, quand on a commencé à constater que l'ozone atmosphérique diminuait, etc., on ne comprenait pas les phénomènes chimiques qui se passaient en atmosphère, et c'est vraiment les observations spatiales, les études dans la navette spatiale, etc., qui ont permis de comprendre les mécanismes de destruction de l'ozone par les CFC, et qui ont ensuite été implémentés au niveau des Nations Unies pour bannir ces produits-là, et maintenant, le trou dans la couche d'ozone commence à se résorber et le problème va être réglé d'ici 50 ans. Et ça, c'est vraiment un effort collectif et le spatial a vraiment contribué là-dessus. L'évolution du climat, etc. Mais même plus loin, tout l'impact de l'être humain sur la biosphère, etc. C'est mesuré par les satellites, entre autres, le montée des océans, de manière générale aussi, les prédictions météo, les catastrophes naturelles, les cyclones, les ouragans, les épisodes météorologiques extrêmes, les blizzards, etc. Sans les satellites de météo, on serait encore soumis à la superstition et à faire un lien entre ça et la comète qui passe, quoi.
Nous avons donc développé une dépendance au spatial. Autant dire qu'on n'entend plus se passer de la recherche dans ce domaine. Et qu'à l'UNAMUR, on met même les bouchées doubles. Il est un projet en particulier qui participe à l'amélioration des conditions des prochains voyages dans l'espace, tout en misant sur des retombées annexes. Un projet qui incarne bien ce moteur technologique qu'est la recherche sur le spatial. C'est le projet RISE, Rotifer in Space, mené depuis 2019 en collaboration avec l'ESA, l'Agence spatiale européenne, et la NASA, l'agence fédérale responsable de la majeure partie du programme spatial civil des États-Unis. Je trouve que ça claque une telle collaboration. Je l'ai dit à Boris Espels, le biologiste qui pilote le programme de recherche, qui trouve aussi, et qui raconte comment tout a commencé.
La station spatiale internationale, c'est énorme, hein, c'est un terrain de football, donc en termes de taille, c'est immense, mais c'est vraiment quelque chose qui peut être considéré comme un grand laboratoire de recherche. Et donc l'idée, c'est quelles expériences que vous voulez venir faire chez nous. Il y a vraiment eu un appel, et en fait, c'est ça aussi, un peu dans l'histoire, qui est comique, c'est qu'en fait, c'est un appel tous les 10 ans.
Il était tombé dessus 15 jours avant.
Boris Espels travaille à ce moment-là sur les rotifères, des animaux microscopiques, à propos desquels on parle parfois de scandale évolutif, car il n'y a que des femelles. Dans leur monde, les femelles se clonent entre elles, sans l'intervention d'un mâle. Ça aussi, je trouve que ça claque. Et Boris, soudain, se demande « Tiens, elles deviendraient quoi, mes femelles, si je les balançais dans l'espace ?» Réflexion surprenante, je dirais, mais le voilà donc qui répond sur le tard et presque par hasard à l'appel de l'ESA.
Et donc, c'est le point de départ de tout ça.
Ça devait être fou quand ce qu'on vous a appris.
Quand tu reçois la lettre, je crois que c'était Frank DeWine, tu reçois une lettre de Frank DeWine qui dit « Voilà, votre projet a été peut-être 5e sur 200 et pour un truc qui a été fait vraiment… »
En 15 jours.
En 15 jours, mais bon, bien rempli. C'était quand même assez chouette. Et donc, ce qu'on a fait, donc l'idée, c'est que notre point de départ, c'est qu'on travaille sur les rotifères bdelloïdes qui sont parmi les plus petits animaux qui vivent sur Terre. On va les trouver dans les mousses et les lichens. Donc c'est des endroits qui fréquemment sont exposés soit à l'humidité ou soit au soleil et donc deviennent complètement secs.
C'est petit comme un acarien ?
C'est plus petit, donc on est inférieur au millimètre. On a quelques-uns qui font un millimètre, mais généralement on est 0,180 millimètres, 180 microns. Voilà. Mais ça se voit. On voit des espèces de comme une petite pellicule dans l'eau. On arrive à les voir et si on regarde cette petite pellicule, on voit qu'elle se déplace. Alors, il y en a qui nagent, il y en a qui rampent. Celui sur lequel on travaille justement, il rampe. Et donc dans ces environnements, ils vont être exposés soit à être hydratés, à se déplacer, manger, mais à certains moments de leur vie, de façon complètement indépendante de leur volonté, l'eau peut s'évaporer et eux vont se dessécher complètement. Donc la vie peut être suspendue. Elle peut être suspendue de façon extrêmement longue, parce qu'ils peuvent être desséchés, mais par exemple, on peut les congeler.
Anne-Catherine Osquin, radiobiologiste à l'UNAMUR, est également associée au projet RISE, un projet fondamentalement interdisciplinaire.
Ici, on pourrait aussi faire des liens avec la médecine de l'humain, finalement, parce que les rotifères sont des organismes qui sont très, très résistants. Je crois qu'en français, ça se dit extrémotolérant ou quelque chose comme ça, mais voilà, j'ai peur de faire des anglicismes, mais bon. Et comme ils résistent à toute une panoplie de stress, en fait, on pourrait essayer d'utiliser certains de leurs mécanismes pour mitiger certains effets délétères du spatial sur l'humain.
Voilà l'enjeu. Le rotifère se présente comme un modèle biologique pour étudier la façon dont on pourrait augmenter la résistance de l'homme face à l'hostilité du milieu spatial. On pourrait donc, concrètement, améliorer les conditions d'expédition spatiale pour l'homme.
L'environnement spatial est limité pour l'être humain si on pense un jour aller vers Mars, enfin, d'abord on va d'abord aller sur la Lune, on va sortir du champ magnétique qui protège de toute une série de radiations de l'atmosphère et on doit comprendre comment le vivant arrive à s'adapter avec des doses plus importantes de radiation parce que on sait que ça donne un...
S'il arrive à s'adapter même, non ?
Voilà, oui c'est ça, mais en fait on le voit, je veux dire, on sait que ben, y a des êtres humains, je crois que c'est 600 jours qui sont allés dans l'espace, faudrait vérifier, mais il y a plein de choses négatives qui se passent, il y a une accumulation de l'exposition aux mutations suite aux radiations.
Tu veux dire que ces hommes là ils ont, parce que j'imagine que c'est essentiellement des hommes, ils ont des problèmes maintenant suite à ça?
Alors c'est des choses qui sont très bizarres, c'est que quand on regarde les données, on voit des astronautes qui ont... On regarde les chromosomes qui sont dans certaines cellules et on voit que certains astronautes ont ce qu'on appelle des aberrations chromosomiques, donc des morceaux de chromosomes qui se sont détachés ou qui se sont mis à un autre endroit, donc pas vraiment le genre de choses qu'on a envie de voir dans ces cellules. Donc il y a des astronautes très clairement qui ont ça et il y en a qui n'ont pas ça. Donc il y a une différence. Et donc la question c'est pourquoi certains ont un effet. Est-ce qu'on peut protéger les astronautes ? Ça, c'est un petit peu le contexte dans lequel nous, on s'inscrit. C'est qu'on envoie des rotifères pour voir comment un organisme extrémophile, qui résiste à des doses extrêmement importantes de radiation, c'est 100 fois plus grand que ce qu'une cellule humaine peut supporter. Donc, ils arrivent à avoir leur ADN qui est cassé en petits morceaux, ils arrivent à réparer. Est-ce que tous ces mécanismes, quand on est dans l'espace, chez un rotifère, est-ce que c'est maintenu ? Ou est-ce que c'est maintenu, mais avec des nouvelles failles ? Ou est-ce qu'en fait, il n'y a strictement aucun problème ? Et donc, en observant ça, on peut documenter un petit peu comment le vivant s'adapte et peut faire face à cet environnement extrême qu'est l'espace. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. Le projet RISE contribue donc à améliorer la résistance des astronautes aux radiations cosmiques. Mais la recherche sur les rotifères, ces petits animaux de moins d'un millimètre, elle pourrait aussi avoir des retombées en dehors du contexte spatial. C'est le fameux moteur technologique dont on parlait, la recherche spatiale conçue comme propice aux innovations technologiques, notamment en l'occurrence dans le domaine médical.
On pourrait essayer de travailler à une technique qui pourrait mitiger l'effet des radiations sur le tissu sain.
Anne-Catherine Osquin, radiobiologiste.
En radiothérapie, quand on fait le plan de traitement du patient, le but c'est d'irradier les cellules cancéreuses. Donc il y a un certain volume qui contient les cellules cancéreuses et qu'on veut éradiquer. Le problème c'est qu'il faut que le rayonnement arrive jusque-là. Et donc on va nécessairement traverser des tissus sains. Donc la plupart du temps en amont de la tumeur, quand on utilise des rayons X et des photons, et aussi en aval quand on utilise ce type de particules-là. Parce que le rayon X va avoir tendance à traverser tout, en fait. Et donc on irradie un volume de tissu qui est sain et qui n'a pas besoin de ce traitement-là. Et donc il y a des effets secondaires de la radiothérapie qui sont connus.
C'est un truc sur lequel vous allez bosser, alors ?
Pas dans l'immédiat, mais plus tard, une fois qu'on aura un petit peu analysé comment le rotifère se comporte et comment il peut mitiger l'effet des radiations, Oui, mais là, il faut creuser beaucoup plus. Hein, mais c'est pour ça que je parlais de dizaines d'années tout à l'heure. Ça peut être de 10 à, je ne sais pas, moi, 80 ans.
Ce qu'Anne-Catherine Osquin pointe du doigt ici, c'est le temps long et l'imprévisibilité de la recherche fondamentale.
On ne peut pas, en tant que chercheur, dire « voilà, dans 10 ans, j'ai un remède contre telle maladie grâce au rotifère ». Je trouve ça dangereux de s'engager, en fait. Ça sera rentable, mais pas forcément tout de suite.
C'est vraiment un investissement sur le long terme,
oui.
Quoi.
Oui, maintenant, en fait, depuis quelques décennies, mais plus encore maintenant, on aime bien avoir tout tout de suite. C'est un peu l'ère de l'immédiateté des choses. Mais en science, c'est pas comme ça que ça se passe. On peut pas tout compresser.
L'équipe du projet RISE a déjà envoyé deux fois des rotifères dans l'espace, en 2019 et en 2020. Un prochain vol est prévu en 2025. En attendant, il s'agit d'étudier les données récoltées.
Alors on a déjà une grande partie des résultats, mais tout prend du temps.
Boris Espels, biologiste.
Mais il faut dire que quand on reçoit les données, première chose qui se passe, c'est qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe. Et on voit finalement tous les problèmes auxquels on n'avait pas pensé. On a essayé. Pourtant,
vous n'étiez pas déçu alors ?
En fait, on s'attendait à quelque chose qui bougeait extrêmement fort et ça bouge beaucoup moins que prévu. Alors, en tout cas, ça aurait été plus facile si ça bougeait très franchement. Imaginons, on a des gènes qui réparent l'ADN. Si ces gènes qui bougeaient l'ADN étaient super représentés ou très fortement sous-représentés, c'est une très belle histoire. Mais en fait, la réalité, c'est pas nous qui choisissons ce qui se passe.
Maman disait toujours, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
La difficulté, c'est que quand on observe les gènes qui augmentent ou qui descendent, on ne parle pas de un gène, ni de deux gènes, ni de 10 gènes. En fait, on est en train de travailler sur 20 à 30 000 gènes. Et donc, arriver à faire le lien entre 7 000 gènes qui bougent dans un sens, 7 000 gènes qui bougent dans un autre sens, et qui sont impliqués dans des fonctions parfois qui sont très similaires, arriver à trouver finalement une explication compréhensible et intelligible, c'est là où ça devient plus difficile.
Vous entendez ? Parler avec les chercheuses et les chercheurs, ça nous rappelle combien, derrière des progrès technologiques spectaculaires, la recherche fondamentale, elle prend du temps. Elle est exigeante et parfois frustrante.
Je peux raconter une histoire très géniale, je peux présenter le côté très sexy de ces bestioles, et il y en a. Mais je pense qu'il faut être correct aussi de dire dans la recherche, c'est aussi tous ces moments où on, ben voilà. Parfois, on décongèle un échantillon, on essaye de les cultiver, on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas. Et on va recommencer sur un autre à côté, ça va marcher. On doit pouvoir documenter pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas. Mais c'est vrai que de façon générale, un peu dans cette idée de « on est à l'âge de pierre de la recherche spatiale ».
Ces temps longs de la science, qui font pourtant partie de son ADN, ils ne sont pas en adéquation avec les financements de la recherche. Alexis Coyette est chercheur en planétologie à l'Université de Namur. Il a intégré la mission JUICE, et ça c'est vraiment pas rien, car JUICE, c'est la première mission spatiale phare du nouveau programme Cosmic Vision de l'Agence spatiale européenne. Et dans ce cadre, une sonde spatiale vient d'être lancée, ici, en 2023, et pour la première fois, vers les planètes externes du système solaire. Une sonde qui ne s'insérera dans l'orbite de Jupiter que dans, tenez-vous bien, 7 ans.
On a un problème, Houston. Ici Houston, vous pouvez répéter ?
Houston, on a un problème.
Autant dire qu'Alexis Coyette, qui modélise actuellement les structures internes des lunes de Jupiter dans le cadre de son post-doctorat, eh bien, il ne sera peut-être, voire sans doute, plus là quand la sonde arrivera à destination.
Oui, oui, il faut vraiment attendre de plus en plus longtemps au fur et à mesure qu'on veut atteindre des planètes de plus en plus loin, quoi, oui. J'aurais sans doute plus de contraire, donc ce sera sans doute quelqu'un d'autre qui utilisera mon modèle pour les comparer avec ce qui a été observé. Voilà, ça c'est un peu la science, on travaille sur quelque chose en espérant que les suivants vont l'utiliser. Oui, ça c'est le problème, disons, des contrats à l'heure actuelle. Dans la recherche, c'est toujours des contrats courte durée, qui fait qu'au bout d'un certain temps, les gens sont lassés de voir à chaque fois repostuler pour avoir de nouvelles sources de financement, et qu'au bout d'un moment, les gens décident à quitter le monde de la recherche pour aller voir ailleurs.
Moi, j'ai des contrats de 1 an à maximum 2 ans.
Boris Espels, biologiste.
On a un système de recherche qui fonctionne sur énormément de collaborations, mais avec ces effets de... Voilà, on finance la recherche par petits coups à différents endroits. Mais les conséquences de ça, c'est que ça fait aussi que la recherche ensemble, c'est pas facile, vu que tout le monde doit trouver son intérêt, sauver les gens qu'ils ont envie de sauver, ce qui est normal.
Piqué, piqué, collé, gramme, bourré, bourré, ratatam, amstram, gramme, pique.
En tout cas, actuellement, la recherche sur le spatial prend énormément d'ampleur, notamment à l'UNAMUR, qui a intégré, fin 2022, l'Alliance Universée, axée sur la thématique de l'espace. L'UNAMUR collabore ainsi étroitement avec 6 autres universités européennes. Anne-Sophie Libert, professeure en mathématiques appliquées.
Donc c'est vraiment une belle reconnaissance de nos travaux, en particulier au département de mathématiques, où cela fait plus de 50 ans qu'on est spécialisé en mécanique céleste. C'est vraiment un nouvel élan qu'on va pouvoir apporter à nos recherches, de collaborer avec d'autres universités dont la thématique principale sera dédiée au spatial.
L'UNAMUR a, c'est vrai, toujours été un acteur fort dans la recherche spatiale. Ses chercheuses et ses chercheurs se distinguent à l'international dans les domaines de la mécanique céleste, des exoplanètes, de la gravitation relativiste et de l'histoire de la cosmologie. 3 astronomes de l'université ont carrément un astéroïde à leur nom, en l'honneur de leur contribution scientifique. Si ça, c'est pas la classe intersidérale. Cette position forte dans le domaine du spatial, c'est une spécificité de l'UNAMUR depuis ses origines. C'est que les anciennes facultés universitaires Notre-Dame de la Paix sont une institution jésuite et que l'ordre jésuite s'est, dès le XVIe siècle, distingué par sa recherche et son enseignement de l'astronomie. Ainsi, le collège Notre-Dame de la Paix est doté de son premier observatoire astronomique dès 1838. Un deuxième observatoire est inauguré en 1883. Il est alors couvert par une coupole mobile. Il est équipé d'instruments de météorologie et d'un grand télescope à la pointe pour l'époque. Ce laboratoire, il va stimuler la recherche et c'est ainsi qu'on retrouve aujourd'hui encore, au sein de la bibliothèque universitaire, de nombreux ouvrages rares et précieux écrits par des astronomes des 16e, 17e, 18e et 19e siècles. Nicolas Copernic, Galileo Galilei, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Isaac Newton, on en a déjà parlé dans le premier épisode. Mais aussi Alexis Clairaut, Nicolas Defer, Auguste Comte, Jérôme Delalande, l'incontournable Georges Lemaître évidemment, cet astronome belge qui a formulé l'hypothèse de l'atome primitif visant à expliquer l'origine de l'univers, qui est donc l'auteur de la théorie du Big Bang, et j'en passe. Et puis, plus récemment, un nouvel observatoire astronomique a été inauguré à l'Université de Namur. C'était en 2019. On l'appelle l'Observatoire astronomique Antoine Thomas, du nom d'un astronome et mathématicien jésuite né à Namur en 1644. L'observatoire se dresse sur les ruines du précédent. Il a une nouvelle coupole, évidemment. Il s'impose comme un point de contact avec le ciel, en plein cœur de la ville, comme une fenêtre ouverte sur l'infini.
Eh ben, tu vois, j'imaginais... pas du tout ça, ah, ça. J'imaginais un truc un peu comme la NASA, justement, avec des boutons partout, mais en fait, pas du tout.
Quand même un peu, hein. T'as quand même des fils un peu partout, des machins, etc., mais c'est encore propre. Attention,
attention, oui, ce serait dommage, hein, de mourir.
Ce boucan, c'est André Fusfa qui le fait. Il est professeur au département de mathématiques et il est à l'initiative de l'Observatoire. Il a même assemblé certains morceaux de la coupole de 8 tonnes avec les mécanos. Et là, il déploie sa paire de jumelles géantes vers le ciel. Dans cet espace étroit à vocation pédagogique, il peut ramener 15 personnes à la fois. Des étudiants, des élèves du primaire et du secondaire, des curieux en tout genre, ou vous, peut-être.
Donc c'est pas un lieu de recherche, même si on sait en faire un petit peu, la formation à la recherche, etc. C'est vraiment un lieu d'enseignement et de diffusion. Et je dois dire que j'ai été très bien soutenu par l'université qui a vraiment, enfin voilà, qui soutient toujours le projet, etc. C'est vraiment un plaisir. Voilà. Moi, ça a été un peu la
mais ça non plus, hein, je ne vais pas le diffuser.
Depuis l'observatoire dans lequel 4 instruments spécifiques et dernier cri ont été installés, il est possible d'observer la Lune, le Soleil, les planètes et les objets les plus brillants du ciel profond malgré la pollution lumineuse.
Tu te sens comment quand tu regardes le ciel en fait?
Ah, c'est toujours de la même façon, ça ne m'en lasse pas. Tiens, viens voir, comme ça tu peux voir. Tu fais ce que tu veux.
Mais par ce temps, loin d'être idéal, il faisait gris, humide, gluant, bouché. Moi, ce que j'ai vu, c'est un couple de faucons pèlerins perchés sur la cathédrale Saint-Aubin, juste en face. On a fait de l'ornithologie en fait. Mais c'était bien aussi.
Ah oui! Ils sont tout le temps là? Bah, ils vivent là,
ça dépend, ils nichent souvent de ce côté-ci, mais ils sont en couple. Hein.
Bref, les jésuites, l'observatoire, les équipes de recherche reconnues internationalement, les faucons pèlerins, tout ça pour dire que l'Alliance européenne universée était une évidence pour l'Université de Namur et qu'elle ravit ses scientifiques, notamment Anne-Catherine Osquin, professeure de physique.
C'est intéressant parce que c'est faire partie d'un réseau de gens qui travaillent sur l'espace en général avec des thématiques qui sont bien spécifiques, mais ça permet d'enrichir nos contacts et de faire plus en fait avec ce réseau que si on était seul. C'est intéressant aussi pour les étudiants parce qu'ils peuvent avoir accès à des programmes de cours en dehors de l'UNAMUR et qui sont en lien avec le spatial aussi.
Ça, c'est quand même quelque chose qui est vraiment extraordinaire dans ce type de projet. C'est la question de la collaboration internationale.
Boris Espels, biologiste.
Quand on va au QG de l'Agence spatiale européenne, ben, je pense que ça, c'est un bon exemple de ce que ça peut être l'Europe. Alors peut-être que dans les fins fonds de méandre, il y a des choses peut-être moins reluisantes, mais quand on va à la cantine là-bas et qu'on voit tous ces gens qui se parlent ensemble, qui travaillent ensemble sur un truc et qui sont tous contents de faire ça, c'est hyper enthousiasmant et je pense que ça manque parfois dans des trucs plus localement, ça peut manquer aussi. Et là, ça transcende un peu les frontières. Et moi, ça me frappe à chaque fois que j'ai des contacts avec des gens. J'ai des contacts à des réunions avec des gens que je ne connais pas. Et en fait, on est là pour faire un truc ensemble. Ben, c'est chouette.
On se connaît, non? Ouais.
Un autre sujet qui occupe le devant de la scène en ce moment, c'est la recherche d'exoplanètes. Une exoplanète, dite aussi planète extrasolaire, est une planète qui tourne autour d'une autre étoile que le Soleil. Une planète qui appartient donc à un autre système planétaire que le nôtre. La première a été découverte en 1995 et ce fut à nouveau un changement de paradigme.
C'est peut-être une des découvertes les plus majeures de la fin du XXIe siècle.
Anne-Sophie Libert, professeure en mathématiques appliquées et chercheuse en mécanique céleste.
On a assisté à la fin du XXIe siècle à vraiment une nouvelle révolution copernicienne où on est passé d'une planète autour d'une étoile qu'on pensait, on pensait peut-être que le système solaire était le seul à abriter des mondes, et on s'est rendu compte que finalement bah, toutes les étoiles qu'on pointe dans le ciel ont peut-être des mondes autour d'elles. On a vraiment acquis cette idée que finalement on est vraiment un parmi, enfin on est vraiment une poussière, on est vraiment une poussière et on a vraiment peut-être une chance incroyable de s'être développée et d'être ici.
Depuis 1995, plus de 5000 exoplanètes ont été détectées dans près de 4000 systèmes planétaires différents. On dit « détectées », car en réalité, on ne sait pas les voir, même si on braque nos télescopes dessus, tellement elles sont loin de nous. L'étoile la plus proche de la Terre est Proxima de Centaure. Elle est située à 4 années-lumière, ce qui est quand même sacrément loin, tellement loin d'ailleurs que moi, je ne sais pas vraiment me le représenter. Une exoplanète est donc observée de façon indirecte par l'affaiblissement de l'intensité lumineuse de son étoile lorsqu'elle passe devant.
Maintenant, on étudie, et c'est vraiment le but de nos recherches, c'est d'essayer de comprendre en quoi notre planète serait différente ou identique aux planètes qu'on observe au loin, qu'on observe, quand je dis qu'on détecte au loin. Et donc, c'est vraiment cette question de savoir quelle est la probabilité ou quelle est la chance d'avoir une autre Terre semblable à la nôtre quelque part ailleurs.
Une autre planète semblable à la nôtre. Vous l'avez compris, la recherche d'exoplanètes réanime une question fondamentale qui taraude l'esprit humain depuis toujours. Existe-t-il une vie intelligente ailleurs dans l'univers ? Sommes-nous seuls dans cette immensité ? La conquête spatiale a d'abord mis fin à la croyance en l'existence des fameux canaux martiens, très répandus à la fin du XIXe siècle. On l'a vu avec Herbert George Wells et sa fameuse « Guerre des mondes » dans le premier épisode de cette série. Son roman a lui-même inspiré le premier film de science-fiction prenant l'espace comme théâtre d'action, puisqu'on est en 1902 seulement, quand Georges Méliès réalise son voyage dans la Lune, un film dans lequel il met en scène des Sélénites, ce nom donné aux habitants imaginaires de la Lune depuis Lucien de Samosate et ses histoires vraies. C'est ensuite avec ce thème d'une vie extraterrestre que le cinéma de science-fiction connaîtra son premier âge d'or dans les années 50, jusqu'au mythique Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace. On est en 1968 et la bande-son originale du film est devenue une véritable légende musicale.
C'est clair que 2001 a été, bon bah, désolé pour le jeu de mots, mais un peu un ovni.
Marion Allais, historienne du cinéma à l'UNAMUR.
Et après ça, en fait, beaucoup estimaient que, ben voilà, en fait, on est arrivé au pinacle. On ne peut pas aller plus loin que 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est l'expression de Spielberg qui a dit que 2001, c'est le Big Bang de la science-fiction. Après, il n'y en a plus. C'est fini. On ne peut pas aller plus loin. Évidemment, lui-même a prouvé que ce n'était pas vrai, puisque lui-même a investi la science-fiction, comme son collègue George Lucas et son ami, avec Star Wars. Mais c'est intéressant qu'après, il y a vraiment eu un moment de mou.
Et ce creux, en l'occurrence, il épouse les découvertes post-alunissage. En 1965, la sonde américaine Mariner 4, pionnière dans le survol d'une planète, réalise les toutes premières images de Mars. Le monde scientifique découvre alors la surface stérile et parsemée de cratères de la planète rouge. Non, il n'y a pas de vie possible là-bas. Dans les années 70, d'autres sondes se succèdent en orbite autour de Mars, confirmant l'improbabilité d'une vie carbonée in situ.
Le sol semble pour le moins instable. Impossible de savoir si l'air est respirable et il n'y a pour le moment aucun signe de vie intelligente en vue.
Coucou !
Mais depuis 1995, la découverte des exoplanètes a donc relancé l'hypothèse de l'existence d'une vie extraterrestre dans un autre système planétaire et même dans le nôtre. Anne-Sophie Libert, professeure en mathématiques appliquées à l'UNAMUR.
Dans le système solaire, on sait dire à l'heure actuelle qu'il n'y a pas d'autres vies semblables à la nôtre. Maintenant, ça n'empêche pas, et c'est une question qui est très répandue parmi les scientifiques actuellement, de se poser la question de savoir où se trouvent les autres formes de vie dans notre système solaire. On sait qu'il y en a peut-être eu dans le passé, par exemple sur Mars, qu'il y a eu des traces d'eau liquide qui pourraient nous faire croire à une apparition de la vie, mais on sait aussi qu'en dessous de certaines lunes, il y a en dessous d'un océan glacé, il y a des possibilités de développement d'une vie, d'une forme de vie qui ne serait pas la même que la nôtre, mais que c'est possible. Et donc ça, c'est vraiment des recherches actuelles qui se concentrent sur le système solaire et qui essayent de voir s'il n'y a pas l'existence de la vie.
Il n'est évidemment plus question de sélénite ou de petits hommes verts, mais d'une autre forme de vie. Cette problématique constitue même un des enjeux de la mission JUICE à laquelle participe le chercheur Alexis Coyette. En explorant les lunes de Jupiter, la mission spatiale pourrait identifier des niches insoupçonnées d'habitabilité.
Ça peut paraître étonnant, effectivement, de retrouver de la vie si loin du Soleil, puisqu'on est quand même à Jupiter, qui est à des millions de kilomètres du Soleil, donc vraiment très très loin d'une source de chaleur. Et effectivement, quand on regarde ces satellites, ils sont glacés en surface tellement ils sont loin du Soleil. Mais imaginons qu'on puisse forer dans ces satellites. En fait, quand on rentre à l'intérieur, la pression augmente. Et si la pression augmente, la température augmente aussi. Donc l'eau va redevenir liquide en dessous d'une certaine profondeur. Donc sur le satellite, en fait, on a une couche de glace en surface, et en dessous, on a toute une couche d'eau liquide qui est présente. Et c'est pour ça qu'on se dit, ben, voilà, qui dit eau liquide dit peut-être émergence de la vie dans ces océans sous la surface, et que donc on a peut-être des formes de vie qui sont présentes là-bas sans qu'on puisse les apercevoir, parce que c'est vraiment sous le sol. If everything's ready here on the dark side of the moon, play the five tones.
Je vois ça un peu comme un retour à la case départ, un retour aux plus anciennes interrogations existentielles de l'espèce humaine. On est à l'âge de pierre de la recherche sur le spatial, disait Boris Espils. Parce qu'ils sont modestes, les chercheurs, c'est sûr, mais aussi parce que c'est vrai, tout reste à découvrir. En revanche, ce qui a changé en 60 ans d'exploration spatiale, c'est le contexte. Avec l'avènement du New Space, soit l'ouverture de l'espace aux entreprises privées, voire au tourisme, la recherche scientifique, notamment celle concernant la quête d'une vie extraterrestre, pourrait être parasitée. Alexis Coyette, chercheur en planétologie à l'UNAMUR.
Pour le moment, en fait, quand les agences envoient des sondes vers différentes planètes, elles s'arrangent toujours pour que les sondes soient aseptisées, donc qu'il n'y ait vraiment aucun microbe qui soit présent sur les sondes. En tout cas, quand elles les envoient dans des planètes pour lesquelles on soupçonne une présence possible de vie, soit actuelle ou alors dans un passé même lointain. Donc, par exemple, toutes les sondes qu'on envoie sur Mars, comme on se dit qu'il y a peut-être la possibilité qu'on détecte une vie ancienne sur Mars, alors on sait qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus de vie sur Mars, mais il y a toujours la possibilité qu'il y en ait eu il y a quelques milliards d'années. Et on s'arrange pour qu'il n'y ait aucun microbe possible sur la sonde, de telle sorte que quand la sonde arrive, elle ne vienne pas nous dire « Ah, mais j'ai détecté un microbe », mais qu'en fait, ce microbe soit un microbe terrestre importé par la sonde. Donc les sondes sont vraiment aseptisées, d'une façon à ne pas importer de microbes terrestres sur un autre corps céleste. Mais si on va coloniser une planète, là, ce ne sera plus du tout avec le même souci, disons, de faire attention à ne pas importer des microbes sur cette planète-là.
La mise en danger de la recherche scientifique par l'exploitation économique de l'espace est une préoccupation majeure du moment. C'est une question d'éthique et on y reviendra dans le troisième épisode en se demandant quelles sont les règles qui existent dans le domaine spatial. En attendant, notons que de la recherche de niches d'habitabilité dans l'univers à la quête d'une planète B, il n'y a qu'un pas. Un pas que les milliardaires américains ont déjà franchi. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon et de l'entreprise spatiale Blue Origin, comme Elon Musk, le patron de Tesla, de Twitter et de SpaceX, envisagent une humanité hors Terre. Ils ambitionnent de faire de l'espèce humaine une espèce multiplanétaire. Pour le premier, Jeff Bezos, le projet est de créer des colonies spatiales flottantes où des milliers de personnes pourraient travailler et vivre. Pour le second, Elon Musk, l'idée est d'établir une colonie d'un million de personnes sur Mars. Alors non pas à la façon de la NASA, qui vise également la planète rouge une fois que l'homme sera retourné sur la Lune en 2025. Non, l'intention de la NASA est clairement exploratrice, scientifique, tandis que celle d'Elon Musk est colonisatrice, mal drapée de dessins humanistes. Mars est envisagé comme une nouvelle Terre, et Musk a déjà fait part de son désir d'y mourir. Les projets des milliardaires américains sont fascinants, mégalos. Ils nous donnent un peu ce sentiment de surpuissance.
Vers l'infini et au-delà !
Et pourtant là, les scientifiques sont unanimes.
Ils nous vendent quelque chose comme étant quelque chose de possible, alors que c'est pas du tout possible avec les moyens qu'on a actuellement.
Alexis Coyette, chercheur postdoctoral en planétologie.
L'ennui, c'est que quand on est aussi sur des missions d'aussi longue durée, le corps est soumis aussi à des rayonnements cosmiques donc qui viennent du Soleil, qui sont dangereux pour la santé des astronautes. Pour aller sur la Lune, à l'époque d'Apollo, ça prenait 3 jours pour y aller. Ensuite, ils restaient une dizaine de jours sur place et 3 jours pour revenir. Donc en 16 jours, disons 2 semaines, ils étaient partis, revenus. Quoi.
Là, c'est un peu vite, on a évolué là-dedans.
Je pense pas qu'on ira beaucoup plus vite qu'à l'époque, en fait. Parce que les fusées restent du même style. Pour aller sur Mars, là, c'est beaucoup plus long. Donc ça doit être 9 mois, je pense, pour y aller. Oui.
C'est vraiment beaucoup plus long.
Parce que c'est beaucoup, beaucoup plus loin aussi.
Oui,
et donc on a vraiment des durées de trajet qui sont beaucoup, beaucoup plus grandes. Donc le plus loin qu'on a été, c'est la Lune, et la Lune, c'est une distance de 380 000 km.
Pour le moment, même si on table sur des durées réduites de voyage et de mission sur place...
Anne-Catherine Osquin, professeure de physique à l'UNAMUR.
On retrouve des gens, au final, qui sont exposés à des doses de radiation qui sont beaucoup trop grandes, en fait.
Et qui ont quoi comme conséquence ?
Ça peut aller d'induction de cancer jusqu'à des effets qui sont plus rapides, comme par exemple des soucis intestinaux, des soucis de peau. Il peut y avoir aussi apparition de cataractes. Mais voilà, donc c'est pas terrible. Hein.
Pour le moment, si on va sur Mars, ça se passe pas bien
ça
pour nous.
Ça pourrait pas bien se passer du tout, ouais. Voilà. Et puis même sur la planète en elle-même, il manque tout un tas de choses. En fait, elle est beaucoup moins protégée du rayonnement cosmique que de la Terre, en fait, finalement. On se fait beaucoup plus irradier en étant à la surface de Mars qu'à la surface de la Terre.
Okay.
Et ça, c'est un problème.
Quand Musk te dit « on va aller coloniser Mars », ça va être une vie de misère.
André Fusfa, spécialiste de cosmologie.
Pour la course à l'habitat, il n'y a rien de mieux sur Terre pour le moment. Mais ça, voilà, c'est toute la question. Je veux dire, faire des colonies avec des gens miséreux, etc., c'est pas la première fois qu'on l'a fait. Tenter l'affaire, on le fera aussi. C'est du cynisme, hein. C'est pas autre chose que ça. Hein. C'est du cynisme et c'est de la perversion, voilà.
L'espace n'est pas très coopératif. Je vous le garantis, à un moment donné, tout va partir en vrille.
Les problèmes sont donc de 2 types. Premièrement, Mars est un environnement hostile pour l'homme. L'air chargé en carbone est irrespirable, le sol est toxique, l'eau dans les sous-sols de la planète est glacée. Et puis deuxièmement, le voyage interplanétaire est trop long.
C'est quand on arrive, c'est encore long. J'en ai marre !
Que dire alors du voyage interstellaire ? Si Mars n'est pas une si bonne candidate que ça pour accueillir l'humanité, ne devrions-nous pas tenter le voyage vers une exoplanète, une planète située dans un autre système planétaire que le nôtre ?
Ça, c'est la théorie la plus répandue quand on pense trouver des exoplanètes. Une conséquence directe dans la tête de tout un chacun, c'est d'essayer de trouver une alternative à la Terre.
Anne-Sophie Libert, professeure en mathématiques appliquées et chercheuse en mécanique céleste.
Si par exemple, la Terre a un problème, est-ce qu'on ne pourrait pas tous imaginer aller dans une fusée et arriver sur une autre planète ? Alors, malheureusement, à l'heure actuelle de nos connaissances, la réponse n'est pas simple parce que non, pour le moment non. Je vous ai dit que l'étoile la plus proche, c'était Proxima du Centaure. Donc elle est quand même à 4 années-lumière. Donc ça veut dire que si on arrivait à voyager à la vitesse de la lumière, il nous faudrait 4 ans. Mais voyager à la vitesse de la lumière, c'est quelque chose d'inatteignable pour le moment, en tout cas avec les connaissances actuelles et même futures. C'est vraiment quelque chose d'incroyablement difficile.
Des mondes habitables, totalement à notre portée.
On échapperait à l'extinction.
C'est parti.
Le voyage interstellaire, c'est vraiment quelque chose de futuriste qui actuellement n'a pas de sens parce que ça épuiserait plus ou moins toutes les ressources de notre planète pour pouvoir le faire. Donc, non.
Les distances à parcourir sont 10 000 fois plus grandes que tout ce qu'on a réussi à faire. On arrive maintenant au bout de 30 ans. En 30 ans, on s'est lancé une sonde à l'autre bout du système solaire et là, il faut faire encore 10 000 fois plus loin. Donc ça veut dire qu'avec les moyens actuels, c'est 40 000 ans de voyage. Sauf si tu développes certaines technologies, etc., au coût énergétique faramineux.
Le problème, c'est que dans l'esprit du public, les pistes sont brouillées. Parce qu'il y a les annonces spectaculaires des milliardaires américains. Ils ont en aplomb, en storytelling, et même des succès spatiaux qui les créditent. Enfin, certains moins que d'autres. Rappelons tout de même qu'en 2018, Elon Musk a envoyé sa Tesla rouge dans l'espace et que ça nous a laissé pantois.
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition.
La confusion entre vérité, plausibilité et improbabilité totale est aussi entretenue par les films de science-fiction.
Tout simplement, si tu prends la question du voyage interstellaire, la science-fiction post-moderne, après Star Wars, etc., ne le présente pas non seulement comme c'est possible, mais comme étant extrêmement facile. Et donc, il y a toute une série, alors que il y a un vrai véritable décalage entre la science qu'il y a derrière et tous les problèmes scientifiques qu'il y a derrière et la manière dont c'est présenté. Et donc, en fait, la difficulté, c'est que tu entretiens une mauvaise culture scientifique dans le public avec des choses qui sont très éloignées de la réalité, même en contre-vérité avec la réalité.
C'est la différence entre fantasy et science-fiction, voilà. En fait.
Marion Allais, docteur en études cinématographiques.
La fantasy, c'est la création quasiment totale d'un monde. C'est totalement imaginé. La science-fiction, en effet, ça se base, disons, sur de la science ou pseudo-science.
Les films sur l'espace font en tout cas recette. Il n'est pas une année qui passe sans qu'un blockbuster au casting détonnant soit à l'affiche. Et si on regarde le top 10 des plus gros succès du box-office mondial, 6 d'entre eux déroulent leur intrigue dans l'espace. Des Avatar, des Star Wars, des Avengers.
C'est très éloigné du fond scientifique. Moi, j'ai de plus en plus le sentiment, je peux le justifier, etc., que l'étiquette science-fiction est devenue un prétexte pour faire vendre parce que tu n'as plus ni le soutien scientifique. Parce qu'en général, ça, c'est dans les Star Wars, il n'y a quasiment rien de scientifique. Hein. Si tu veux, c'est plutôt, pour moi, je trouve, un saupoudrage ou une étiquette qui fait vendre. Il n'y a pas la construction de science qui est derrière. Un des grands thèmes de la science-fiction, c'est de présenter ce que pourrait l'impact sociétal que pourraient avoir certaines technologies ou certaines découvertes scientifiques. Et en fait, voilà, écoute, je suis désolé.
Mais c'est toute la question de l'art, en fait, André. Mm-hmm. Parce qu'on oublie très souvent, le cinéma est un moyen de divertissement. Hein. Donc, on lui demande peut-être un peu trop. Enfin, voilà, c'est la question que je pose.
Des outils comme ça qui sont vus par des centaines de millions de personnes à travers la planète et qui vont répercuter des valeurs qui sont discutables et des contre-vérités scientifiques, ça fait en fait du dommage. L'outil, avec la force qu'il a et la présence, l'omniprésence qu'il a aussi, remplace l'éducation. Parce que il y a quand même, malgré tout, on passe certainement plus de temps devant des films de science-fiction ou des films estampillés science-fiction qu'à lire des bouquins d'astronomie.
Mais c'est vrai que la place du cinéma, c'est indéniable, c'est très, ça a beaucoup de place dans la vie des gens, en fait. Et donc, mais toute la question de la responsabilité, où est-elle, en fait? Chez le spectateur, chez le créateur, est-ce que le créateur se pose autant de questions? Enfin voilà.
J'ai envie de répondre, l'éducation c'est un devoir commun, donc oui. il est partagé. Tu peux pas non plus avoir une industrie qui fait des milliards de dollars de bénéfices et qui en fait sans le savoir est en train de fouler aux pieds ici la branche sur laquelle elle est elle-même assise en bousillant le peu de culture scientifique que les gens ont parce qu'elle accapare tout le terrain. Il y a une question de part de marché de notre attention aussi. Hein.
Le truc, c'est qu'entre la science-fiction et la fiction, on n'y voit pas toujours clair. Car sur le plan purement théorique, le voyage interstellaire, le voyage vers une planète en dehors de notre système solaire, il est plausible.
Les possibilités, elles existent. Les centrales solaires spatiales, c'est une des technologies possibles. Et après, tout ce qui est fusion nucléaire, c'est des technologies qui sont envisageables, sont pas prêtes, mais qui sont envisageables. Il y a des pistes, c'est pas complètement dingue. C'est pas le voyage dans le passé, hein. Le voyage dans le passé, il est physiquement interdit. Ici, on parle de choses, en fait, qui sont, dans la physique conventionnelle, envisageables. Le problème est technologique.
À l'UNAMUR, André Fusfa travaille même à la modélisation de voiliers-lumière relativistes qui pourraient faire le voyage. Il fait des calculs de trajectoire, des choses comme ça. Donc la tension est énorme. Le voyage interstellaire est encore impossible, mais il est techniquement envisageable. Et surtout, il pose en problème éthique lancinant.
L'attrait, là, c'est pas un souci, etc. Mais c'est vraiment aussi toute la réflexion sur l'avenir de l'humanité, vers où tout ça nous conduit. Et comme je te le disais, moi, je suis... Comme ça n'est pas interdit, on va le tenter. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir. Et il y aura un schisme entre les gens qui partiront et les gens qui resteront. Et sur cette question-là, du voyage interplanétaire, qui est aussi coûteux, et du voyage interstellaire, qui est encore pire, il y a toute la question de savoir si ceux qui partent, quelles sont les conditions qu'ils vont laisser à ceux qui restent. Le coût pour ceux qui vont partir va être super dur à apporter, principalement pour ceux qui restent.
Comment le chercheur se dépêtre-t-il dans un tel cas de conscience ? Comment peut-on à la fois participer, même de loin, juste intellectuellement, à la réalisation d'un projet scientifiquement incroyable et considérer que ce même projet est absurde, démoniaque, criminel ? C'est ce que nous verrons dans le troisième et dernier épisode de cette série. Il est intitulé « Péché spatial ». En attendant, on résume. La recherche dans le domaine du spatial est vivace. Elle engrange des progrès fantastiques et éclabousse notre vie quotidienne de retombées scientifiques et technologiques dont on ne pourrait plus se passer aujourd'hui. Dans ce vivier international, l'UNAMUR joue un rôle fort. L'expertise de ses chercheuses et de ses chercheurs est reconnue et recherchée. Les projets scientifiques qui y sont déployés recoupent les missions spatiales projetées dans un avenir plus ou moins proche. Des voyages vers la Lune et vers Mars, l'étude des satellites de Jupiter, la détection d'exoplanètes, la recherche de vie extraterrestre et même le voyage interstellaire. Les conditions d'accomplissement de cette science sont parfois compliquées, tant on oublie que la recherche est lente et progressive, tant aussi les financements sont morcelés, tant enfin les interférences avec la science-fiction ou la mégalomanie de certains acteurs privés sèment la confusion. Face aux ambitions les plus démesurées, la science peut-elle suivre ? Et si oui, à quel prix ?
Hector, le podcast qui questionne la science, les pratiques et les positionnements scientifiques. Réalisé par Céline Raz et le service audiovisuel de l'UNAMUR pour l'Institut Moretus Plantin.
Merci à vous d'avoir écouté l'épisode 2 de la série Hector consacrée à l'espace et merci à tous ceux qui y ont participé. Dans cet épisode, vous avez entendu une composition musicale originale d'Alexandre Rollman. Le montage, c'est Valentin Meiss. Les voix supplémentaires sont celles de Raphaël Volon et du craquant petit Marcus Heureux. Vous avez aussi entendu des extraits des films Forrest Gump de Robert Zemeckis, Apollo 13 de Ron Howard, OSS 117 Rio ne répond plus de Michel Hazanavicius, Seul sur Mars de Ridley Scott, Rencontre du troisième type de Steven Spielberg et Interstellar de Christopher Nolan. Il y avait aussi des extraits du dessin animé Toy Story, de la série Futurama de Matt Groening et des morceaux de chansons Space Oddity de David Bowie et Intergalactique des Beastie Boys.